Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Kapi. Je suis Gisèle Cage et vous écoutez notre édition du journal. Voici les titres qui marquent l'actualité aujourd'hui. Urgence à Kisenso. 180 familles sinistrées doivent quitter l'Institut technique industriel Kitomessa en deux jours. La reprise des cours prévue pour le 24 avril est menacée par des conditions insalubres. Les autorités scolaires et les notables locaux lancent un SOS aux autorités compétentes. Cinq engins explosifs détruits mercredi par une équipe du service de lutte anti-mine des Nations Unies dans la région des Fataki, territoire de Djougou. Ces engins ont été trouvés après des combats en mars dernier entre la milice Codeco et les troupes de l'armée ougandaise. Les habitants signalent la présence d'autres engins non explosés dans plusieurs villages du groupement Dar. Attaque brutale, enlèvement d'agriculteurs, extorsion de biens champêtres. Le rebelle des ADEF ravive la terreur depuis janvier de cette année dans le Mayangos, territoire de Beni. Pourquoi cette résurgence des violences dans cette région après 5 ans d'accalmie? Le colonel Makazukai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, nous en parle dans une interview exclusive sur Radio Kapi. Ne manquez pas cet entretien. À Kisenso, les sinistrés des inondations toujours hébergés à l'Institut technique industriel Kitomessa n'ont que 2 jours pour trouver un nouveau refuge. La reprise des cours est prévue pour le lundi 24 avril, mais le retour des élèves semble incertain sur ces sites où vivent environ 180 familles. L'école ne semble pas prête à accueillir les élèves sans des travaux d'assainissement. Les familles sur place vivent dans des conditions précaires, sans accès à l'eau potable ni à la nourriture. Les autorités scolaires et les notables locaux lancent un SOS aux autorités compétentes pour que des mesures soient prises avant lundi. Reportage signé Moudoumbi Benjamin, Plantin Yambenga et Étienne Lissumbo.
L'état d'immondice jonche les sols ça et là sur ces sites. Des odeurs nauséabondes s'y dégagent. Deux salles de classe occupées par les sinistrés présentent l'image de vieilles habitations abandonnées. La latrine ressemble au dépotoir. Le préfet de l'école éthique Tomessa Vicky Kanda exprime ses doutes quant à la reprise effective de cours ce lundi.
Nous avons accueilli des familles en détresse à ce jour ici. Nous ne sommes pas en mesure de recevoir les enfants. Je demande à l'autorité compétente de chercher un lieu pour délocaliser ces nombreuses familles. Des deux, un appui logistique pour l'assainissement, désinfecter les milieux. Et ce n'est qu'après que nous pouvons envisager la reprise des cours.
Ayant tout perdu, plusieurs familles hébergées dans cette école s'inquiètent pour leurs enfants, mais aussi pour les logements. Maintenant que la reprise de cours pointe à l'horizon, les mères des familles témoignent.
Notre inquiétude est que nous ne savons pas comment les enfants reprendront le chemin de l'école ce lundi. Ils n'ont ni uniforme, ni cahier et chaussures. Tout a été englouti dans la boue.
Ici alors que les élèves reprennent les cours. Quelle est l'issue pour nous? Devons-nous retourner dans la boue de nos maisons?
L'issue provient de la zone éducationnelle Kisenso. Etienne Obeya plaide pour une délocalisation urgente des familles sinistrées.
Dans la même veine, ce vendredi marque le début de la délocalisation des sinistrés des inondations qui occupent les écoles. Le ministre provincial de l'éducation, Jeannot Kano, a annoncé que ces sinistrés seront évacués vers 2 nouveaux sites de transit en cours d'aménagement, le stade municipal de la commune de Bondal, un autre site dans la commune de Lancélé. L'objectif est de libérer les écoles pour permettre la rentrée effective des classes après 2 semaines des vacances de Pâques. À ces jours, plus de 40 000 ménages ont été enregistrés depuis le début des inondations causées par les dernières pluies qui ont endeuillé certains quartiers de Kinshasa. Jeannot Kano appelle les parents des écoles concernées à envoyer leurs enfants à l'école dès lundi prochain. Il s'exprime dans cet extrait proposé par Trio Banzi.
La ville de Kinshasa a connu ce qu'on appelle une catastrophe naturelle. Avec plus ou moins 40 000 ménages, nous avons utilisé les gymnases qui sont là, mais malheureusement, ces gymnases ne peuvent pas contenir le nombre de personnes. Alors, sur instruction du gouverneur de la ville, il fallait réquisitionner quelques écoles, notamment l'Institut Lumumba et l'Institut Kitomessa à Kisenso. Nous avons quand même pu placer quelques familles. Alors, est intervenue aujourd'hui la rentrée scolaire qui nous guette à l'horizon. Nous nous préparons pour délocaliser déjà tous les sinistrés et nous avons déjà trouver un site de transit dans le stade municipal à Bandal que nous avons aménagé. À la minute où je vous parle, nous sommes en train de placer déjà deux lits. Ça va commencer ce soir. Nous allons délocaliser le nombre de personnes qui sont à Lumumba pour les placer éventuellement à Bandal. Et ceux de Kisenso, nous allons les placer en Célé. Dès lors que nous allons délocaliser tous ces sinistrés, le samedi, le travail sanitaire va commencer. Nous allons désinfecter le samedi et le dimanche, ce sera déjà fin prêt. Et je vous rassure que le lundi, les enfants vont reprendre les écoles sans problème.
Comme indiqué dans les titres, en Ituri, 5 engins explosifs découverts par la population ont été détruits mercredi par une équipe du service des luttes anti-mines des Nations Unies, UNMAS, dans la région d'Ifataki, territoire de Djougou. Selon des sources locales, ces engins ont été trouvés après des combats en mars dernier entre la milice Kodeko et les troupes de l'armée ougandaise, UPDF. Plusieurs sources locales alertent les autorités sur la présence d'autres engins non exposés dans cette zone, constituant un danger pour la population. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Ces engins ont été découverts entre autres dans les villages de Boulé, Ali, Djabi ainsi que dans la concession des prêtres de l'église catholique de Fataki Centre à environ 105 km au nord de Bounia. Il s'agit des deux obus mortiers du type 60-82, deux roquettes dont une RPG-7 et d'une fusée de mortier larguée lors des combats entre les miliciens de la Codeco et les UPDF dans la région. D'après l'équipe de déminage de l'unité de la lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, à cause de l'insécurité dans la région, d'autres zones n'ont pas été visitées. Alain Kassongo, superviseur de l'équipe technique UNMAS AFRILAM.
Il y a des tirs qui ont été tirés, qui n'ont pas explosé. Ça part, vous devez écouter de l'autre côté. Même aujourd'hui le matin, il y a eu certains tirs que nous avons vécu ici. On a senti les tirs partir, mais on n'a pas écouté l'explosion. Et moi, je crois que quand la communauté va rentrer, nous aurons encore beaucoup de travail.
Pourtant, affirme la société civile du secteur de Walendo-Djatsi, d'autres engins explosifs non explosés se trouvent dans plusieurs villages du groupement d'art qui, selon son coordonnateur, subissent des tirs quotidiens des éléments UPDF. Cette structure demande à la population d'être vigilante, mais aussi d'alerter les services compétents ou UNMAS en cas de découverte d'engins non explosés. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, le caucus des députés provinciaux élus de Moba a demandé aux autorités nationales de remplacer tous les militaires des forces navales et terrestres stationnés dans le territoire de Moba. Ces députés accusent les militaires de tracasserie et d'extorsion envers la population. Hier jeudi, ils ont rencontré l'administrateur du territoire de Moba. Paulin Munanga nous fait le point.
Les députés provinciaux élus de Moba accusent les militaires des FARDC d'ériger des barrières pour rançonner la population, à en croire plusieurs sources locales. Devant l'administrateur du territoire de Moba, les élus ont fait savoir que des barrières sont placées sur l'axe Moba-Pueto et sur d'autres axes routiers. Selon les députés, le comportement de certains militaires est inacceptable. Ils demandent la suppression de ces barrières et que tous les militaires soient remplacés par d'autres d'après eux. Le député Frédéric Kabunda Tabou s'exprime au nom du caucus des députés provinciaux élus de Moba. Si c'est possible, nous vous demandons, monsieur l'administrateur, de nous accompagner jusqu'à Kalongo, Kinsuli et Kakera pour aller voir de vous-même comment nos FRDC tracassent la population. Au lieu de fouiller les gens, ils érigent des barrières et exigent des taxes. C'est ce qui fait mal. Et lorsque la population décrit ces tracasseries, nous, en tant qu'élus, nous sommes obligés de prendre des bateaux pour venir sur place. Un jeune homme a même été tué. Cela ne nous arrange pas du tout. Contacté par Radio Okapi, le commandant des FRDC forces terrestres dans les territoires de Moba se réserve à tout commentaire.
Après le Tanganyika, direction Nord Kivu. Depuis janvier, les autorités rebelles occupant Goma multiplient les actes juridiques, actes de naissance, certificats de mariage, documents, tenants lieux de passeport, titres de propriété. Rien n'échappe à leur contrôle. Radio Okapi a mené l'enquête pour évaluer la valeur juridique de ces documents émis en zone rebelle selon le droit congolais. Le point avec Jacques-Yves Molima.
Dans les zones longtemps contrôlées par des groupes rebelles, la population se retrouve parfois sans accès aux services publics officiels. Elle se voit contrainte d'accepter les documents délivrés par les autorités de fait. C'est le cas d'Albert Toumaini qui a marié sa fille le 12 avril dernier à Goma. Le mariage civil a été célébré à la commune de Goma par une autorité désignée par la rébellion. Le certificat de mariage est délivré au couple tout comme d'autres documents. Cependant, un juriste estime que ces documents peuvent servir localement mais pourront poser un problème hors de la zone rebelle. Lors du retour de l'État dans la zone, ces documents seront souvent invalidés ou réexaminés comme on l'a vu dans le passé. Ou encore une procédure spéciale ou une régularisation administrative sera parfois nécessaire pour intégrer les documents dans le cadre légal. Certains juristes pensent que le groupe rebelle comme le M23 notamment n'a aucune légitimité reconnue par l'État congolais pour émettre des documents officiels. Ils parlent de l'absence des reconnaissances officielles. Bref, s'appuyant sur le droit congolais en RDC, les documents émis par les groupes rebelles n'ont pas de valeur juridique reconnue, sauf dans des cas très exceptionnels où l'État décide par mesure humanitaire ou pragmatique de les régulariser ou d'en accepter certains effets, concluent ces juristes.
Restons au Nord Kivu. 5 hommes ont perdu la vie foudroyés hier jeudi à Kitsoulé, dans le village de Kalinga, situé dans le groupement Biri, secteur d'Osobanyungu, territoire de Masisi. Selon une source locale, 8 hommes, membres d'une association, travaillaient ensemble dans un champ vers 13h40 lorsqu'un éclair a frappé sous une légère pluie, tuant 5 d'entre eux sur le coup. Les 3 autres grièvement blessés ont été admis au centre de santé de Kitsoulé pour recevoir de soins appropriés. Aimé Bemba, un habitant de Kitsoulé, joint par Roneline Timbonera, confirme les faits. Suivez.
Nous sommes rendus à Kitsoulé Louchébéré après avoir perdu 5 hommes foudroyés alors qu'ils travaillaient dans un champ. Ils étaient 8 au total, 5 ont été frappés par la foudre et sont décédés sur le coup, tandis que 3 autres ont été grièvement blessés. Les drames s'est produit vers 13h40 sous une pluie légère. Les victimes, toutes membres d'une même association, étaient originaires de Kitsoulé.
Le directeur général du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale a dressé un bilan trimestriel positif de ces centres inaugurés le 14 décembre 2024 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi lors d'une conférence tenue hier jeudi au centre. L'écrivain et cinéaste congolais Baloufou Bakoupa Kanyinda a évoqué plusieurs activités majeures organisées avec patriotisme et solidarité envers les populations de l'Est de la RDC touché par une guerre d'agression. Baloufou Bakoupa s'est exprimé au micro de Jean-Marc Matouaki.
Qu'est-ce qui a été fait durant 3 mois? C'est-à-dire que d'abord, le centre, c'est un ouvrage énorme qui est toujours en rodage. Il a fallu faire des textes, des tests qui n'ont pas été faits avant. Nous avons fait des activités ici, des grandes activités dont Misa Congo, Debout Peuple du Congo, qui a été, je crois, un des programmes de mobilisation patriotique avec un concert magnifique de l'orchestre symphonique Imbangiste. Nous avons fait une collecte de fonds qui va aider des cinéastes de Goma et de Bukavu de pouvoir témoigner de la tragédie qu'ils ont vécue et ont continué à vivre. Nous avons accueilli ici beaucoup d'activités d'élan patriotique. Nous mettons en place nos propres activités. Tous les dimanches, nous montrons un film. Nous avons un public qui grossit de plus en plus et qui est ému de découvrir d'abord le cinéma sur grand écran et de découvrir l'histoire du pays à travers le cinéma. Donc voilà un peu en partie ce que nous avons fait. Nous avons aussi mis en place une étude, donc le plan de gestion du centre, son cahier de charges. C'est un travail de longue haleine, mais nous l'avons bien fait. Nous l'avons présenté mercredi au comité de pilotage qui était présidé par son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine.
Situé en face du Palais du Peuple, ce centre impressionne par son architecture et dispose d'un grand théâtre de 2000 places, d'un petit théâtre de 800 places, ainsi que d'une résidence d'accueil pour les créations. Selon Baloufou, l'une des missions principales est de passer de la culture du festif à celle de la citoyenneté où l'art éduque, libère et rassemble. Il s'agit également d'affirmer la souveraineté culturelle congolaise face au récit imposé. Baloufou Bakoupa Kanyinda a également mentionné le défi réel auquel le centre fait face tout en soulignant que des solutions progressives sont en cours de mise en œuvre. À Kinshasa, toujours, la famille du défunt Honoré Nguanda, ancien conseiller spécial du feu Maréchal Mobutu, réclame justice pour expropriation de leur parcelle familiale par le Conseil national de sécurité. Les parcelles en question sont situées au numéro 6 et 8 de l'avenue de Cocotier dans la commune de la Gombe. Madame Yuma Denise, la liquidatrice, a dénoncé cette expropriation lors d'une conférence de presse tenue hier. Elle a présenté à la presse pièce tous les documents valides prouvant les droits des propriétés de sa famille sur ces parcelles dont ils ont été expulsés il y a 4 ans. Plus de détails avec Aksanzi Biatayoro.
Acte de vente datant de 1977, certificat d'enregistrement, lettre de cession, acte notaire, autant de documents que la fille du feu Honorine Banda a brandi devant la presse pour réclamer les parcelles qu'a laissées son défunt père. Selon Youba Denise, c'est après la transition politique de 1997 que la famille Mbanda a été expulsée de ses parcelles sous le régime de Laurent Désiré Kabila, malgré l'absence de fondements légaux concernant l'appropriation de ces terrains par l'État. En 2003, suite à une enquête officielle et une décision de la commission interministérielle immobilière, il a été ordonné la restitution des biens confisqués, incluant les propriétés de M. Mbanda, à la suite du jugement favorable à sa succession. D'après les affirmations de Youba Denise, à aucun moment les terrains n'ont été affectés comme résidence officielle pour d'autres conseillers spéciaux du chef de l'État. En outre, aucune autre autorité n'a revendiqué ces propriétés avant 2014. En ce jour, la fille aînée de Mbanda déplore que c'est devenu une villa privée spoliée par le conseiller spécial du chef de l'État, Eberhard Kolungele. Un contentieux à suivre.
Actualité internationale.
Au Yémen, les rebelles houthis ont annoncé que le bilan d'une frappe américaine ce vendredi sur le port pétrolier de Ras Issa, un site stratégique sur la mer Rouge, était monté à 38 morts et plus de 100 blessés. 38 ouvriers et employés ont été tués et 102 autres blessés selon un bilan provisoire de l'agression américaine sur le site pétrolier de Ras Issa, a indiqué la chaîne de télévision Al Masira des houthis, citant les autorités sanitaires de Hodeïda, ville de l'ouest du pays contrôlée par les rebelles.
L'invité.
Depuis janvier cette année, les rebelles des ADF ont ravivé la terreur dans les Mayangos, au territoire de Beni. Attaques brutales contre la population, enlèvement d'agriculteurs, extorsion de biens champêtres. Ces dernières semaines, ces rebelles ont multiplié les attaques dans une région qui connaissait pourtant une accalmie depuis près de 5 ans. Pourquoi cette résurgence des violences? Pour en parler, nous recevons le colonel Makazukai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Ils sont entretien avec Guylaine Kassassia dans cette édition.
Colonel Makazukai, bonjour.
Bonjour madame.
Comment expliquez-vous la résurgence des attaques de rebelles des ADF dans les Mayankossé alors que c'est depuis presque 5 ans que cette région avait retrouvé un semblant d'accalmie?
Mais écoutez, personne, aucune structure de l'armée n'avait déclaré la fin de la guerre contre les ADF. La lutte contre le terrorisme est un travail de longue haleine. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait une accalmie. Aujourd'hui, la situation est volatile à cause du mouvement de l'ennemi dans la zone. Mayango, c'est vrai qu'à un moment donné, nous avions tout le contrôle. Nous avions détruit tous les grands bastions à partir desquels ils projetaient des opérations criminelles contre la population. Mais il s'est fait qu'avec l'autre menace, c'est-à-dire le M23, nous avions opéré un redéploiement. Peut-être c'est ça qui a fait que l'ennemi puisse réapparaître dans cette zone, mais il y a un travail qui est en train de se faire. Les forces de la coalition sont très actives pour essayer de reprendre le contrôle de Mayango, c'est parce que vous savez que Mayango, c'est le grenier de Beni. Et avec tout ce que nous vivons, avec l'afflux de la population qui vient de zones occupées par l'N23, c'est une priorité qu'on contrôle Mayangose pour permettre à la population de vivre quand même aisément dans cette zone.
Quelle est la situation sécuritaire sur place au jour d'aujourd'hui?
Au jour d'aujourd'hui, la situation sécuritaire est certes volatile parce que l'ennemi est en train d'errer dans la zone. Vous avez cité bien sûr Mayangose et un peu plus loin, c'est-à-dire la partie nord de la ville de Beni. Donc c'est volatile, mais nous sommes très actifs. La preuve en est qu'il ne se passe pas 2-3 jours sans qu'il y ait accrochage entre les forces de la coalition, ces terroristes.
Y a-t-il de consignes à donner à la population composée en majorité d'agriculteurs dans les Mayangossé?
C'est vrai, c'est très difficile d'interdire aujourd'hui la population qui ne vit que de l'agriculture d'accéder à Mayangossé, qui est le grenier de Béni. Mais je pense que c'est quand même important d'opérer un choix entre la mort et peut-être ce que vous pouvez appeler la famine ou la faim. C'est un travail que nous devons faire ensemble. Donc, sans penser à interdire formellement l'accès à Mayangossé, nous demandons à la population de se référer toujours aux autorités militaires qui sont déployées dans la zone pour y accéder. Il faudra que les gens puissent signaler leur entrée dans Mayangossé, mais aussi leur sortie pour éviter des dégâts collatéraux.
Comment expliquer que plus de 10 ans après, malgré Sokola 1 et 2, malgré la mutualisation des forces entre FARDC et UPDF, l'armée ougandaise et même l'appui de la MONUSCO à travers sa brigade d'intervention FAIB, la menace des ADF demeure toujours présente? Que manque-t-il pour éradiquer cette force négative?
Madame, laissez-moi vous dire que, à moins de me tromper, que aucune armée au monde, aucune puissance au monde aujourd'hui n'a encore totalement gagné la guerre contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est un casse-tête chinois pour toutes les armées du monde. Imaginez jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis, autres grandes puissances sont toujours aux aguets face au terrorisme. Les terroristes se mélangent à la population et son mode opératoire complique toutes les armées, tous les services de sécurité du monde. Donc, ce qui est important, c'est que nous sommes en train de travailler et j'en profite pour féliciter la population de Béni et ses environs qui, malgré tout ce que vous évoquez ici, est en train de se battre. C'est grâce à l'appui de cette population que de temps en temps, vous parlez de la calmie.
Alors, une dernière question, colonel Makazukai. Certains accusent de militaires des FARDC d'être des connivences avec ces rebelles qui se livrent au trafic de minerais, de bois, de cacao. Vous répondez quoi à ces accusations et que fait l'armée pour traquer ce militaire indiscipliné que certains défenseurs de droits humains qualifient d'affairistes?
Madame, laissez-moi vous dire que vous pouvez sécuriser quelqu'un, mais vous ne pouvez pas sécuriser son cœur. C'est vrai, nous entendons de temps en temps ce genre de propos. Et si c'est avéré, la justice militaire sera activée.
Colonel Makazukai, merci.
C'est à moi de vous remercier, madame.
Notre invité, le colonel Makazukai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, s'entretenait avec Guylaine Kassassia depuis la ville de Béni, au Nord Kivu. Ainsi s'achève ce journal de midi sur Radio Kapi, à la mise en onde Pierre Diassinois, coordination Jacques-Yves Moulima, présentation Gisèle Cage. Pour suivre autrement le programme de votre radio, restez connectés avec nous sur WhatsApp via les liens disponibles sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Restez à l'écoute de Radio Kapi pour découvrir la suite de nos programmes. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve demain sur la même fréquence.